On va parler plus spécifiquement de cette collaboration avec François Ozon, qui a débuté avec Les Amants criminels. Et tu disais que François Ozon te faisait intervenir de plus en plus tôt. C'est-à-dire que Les Amants criminels, le film était totalement terminé quand tu es intervenu. Pour Sous le sable, c'était en cours de processus. Et au fur et à mesure, tu finissais par intervenir très tôt au moment du scénario. Et j'ai entendu François Ozon dire à propos de Franz que la nécessité d'une musique ne lui était pas apparue dès le départ. Alors, double question pour commencer. À quel moment il t'a fait intervenir sur France et quelle a été, justement, au final, la nécessité pour lui de cette musique ?
Vaste question. non, c'est vrai qu'on a, une collaboration qui s'est mise en place du premier long métrage je sais pas compter d'ailleurs, à France. Et je pense que c'est un rapport de confiance aussi, une accoutumance, une réflexion sur la nécessité ou pas de mettre de la musique à certains endroits, et au pouvoir aussi de la musique dans son cinéma, qui a pris de plus en plus de place. Il a pu, en collaborant de film en film, s'apercevoir ce que je pouvais apporter à certains moments dans sa narration, et ce que pouvait lui apporter d'avoir des musiques en amont sur certains projets. Donc c'est vrai qu'à certains projets, j'ai écrit des musiques sur le scénario, à la lecture, parce qu'il en avait besoin pour se nourrir, pour s'inspirer, pour essayer de faire une sorte d'aller-retour, de jeu, de ping-pong entre ses réactions à lui au montage grâce aux musiques qu'il entendait et qu'il avait l'habitude d'entendre en amont, qui pouvait lui donner une dynamique, un rythme pour monter son film, et à la fois me faire rebondir en me montrant parfois les premières images de son film avec des musiques que j'avais fait avant de voir ces premières images tournées, et pour me faire réagir aussi. Donc on se fait réagir l'un l'autre comme ça de plus en plus grâce à cette complicité de dans le temps. Voilà. Donc Franz, ça a été un cas encore particulier. Parce que bien qu'il n'ait pas, comme tu disais, la nécessité, l'urgence d'avoir une musique très très tôt, il m'a quand même envoyé le scénario à l'avance et il m'a demandé de réfléchir. Sauf que je pense que pour lui aussi, c'était un premier film en noir et blanc, un premier film de ce type-là, de ce caractère particulier, avec la langue, avec tout ce que vous avez pu ressentir, je pense, depuis presque 2 heures. L'évidence et la vraie couleur de la musique, le vrai caractère de la musique s'est révélé qu'en voyant des images. C'est-à-dire que j'ai commencé un premier travail, j'ai mis ça de côté, et puis le hasard a fait que je suis allé sur le tournage, à la frontière polonaise, et pendant j'ai accompagné mon épouse, en fait, qui a appris le violon à Pierre Ninet, qui est violoniste et qui a appris. Et du coup, je l'ai accompagné et je me suis retrouvé, vous savez, au début du film, dans ce cimetière aussi si singulier. Tiens, bonjour, un musicien dans la salle. J'ai retrouvé une ambiance telle dans ce cimetière, et j'avais déjà commencé à réfléchir à la musique. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à réfléchir. C'est la première fois, en fait, que j'avais commencé quelque chose, mais qu'entre-temps, j'allais sur un tournage. Et au moment où il est revenu du tournage, comme à son habitude, il m'a appelé, il m'a dit « Bon, alors, tu as quelques idées ?» Il est toujours impatient, sauf que cette fois-ci, il avait laissé le temps du tournage. D'habitude, je dois lui donner la musique avant le tournage. Vous voyez, c'est un pari osé pour moi, parce que n'ayant pas vu le film, je ne suis pas sûr non plus d'avoir fait mouche et d'avoir trouvé le ton exact sans avoir vu les images. Donc bon, on fonctionne comme ça, on sait qu'on a le droit de se tromper. Je fais une première esquisse, et puis après, en voyant les images, on essaye d'arranger les couleurs, les nuances, etc. Alors que là, bon, qu'il a tourné son film, j'arrive donc un petit peu plus tard, mais sans avoir vu quand même les images. Et donc, je me souviens, je l'ai appelé, je lui dis, François, puisque tu les as, ces images, tu voudrais pas me donner quand même 2-3 petits extraits, parce que ce que j'ai ressenti sur le tournage, c'est en train de me faire dévier de ce que je suis en train de faire. Non, ça m'intéresse tellement quand tu me donnes des choses sans avoir vu les images. Alors je lui ai donné des choses. Et puis effectivement, il m'a appelé et il m'a dit, je vais t'envoyer quelques images parce que peut-être qu'on est allé un peu trop par là ou un peu trop par là. J'ai dit, tu vois, tu peux m'envoyer quelque chose rapidement. Bah, il m'a envoyé, je sais pas moi, 2 minutes de film. Mais il commence le montage, hein, c'est normal. Mais ça fait rien, c'est quelques minutes de film. L'univers en Allemagne, les acteurs allemands, la langue, le noir et blanc, le climat singulier que vous avez pu sûrement ressentir. En 3 jours après, je lui ai envoyé la musique, en fait, ce qui transpirait de ces images, qui étaient pas complètement à l'opposé de ce que j'avais fait, mais qui était ajusté, qui était plus en équation, je pensais du moins. Et ça s'est révélé puisqu'il m'a appelé, il m'a dit, écoute, on l'a mis là, ça marche partout. Voilà. Donc le challenge après, ça a été de faire des variations parce que sinon on se retrouvait avec le même morceau sur tout le film.
Et dans votre collaboration, est-ce que François Ozon se repose vraiment entièrement sur toi en te laissant carte blanche ou il te dirige un peu par des références ou des indications?
Oh, ça lui arrive quand ce sont des films très typés, comme Potiche, par exemple, où là, bon, il me parle d'une époque, d'un style ou d'envie qu'il a. Mais après, pour les autres films, en règle générale, il aime bien... Oui, parfois, il me parle d'un instrument. Il me dit, j'aimerais bien du piano, du violoncelle, ou pas trop de ceci, ou pas trop de cela. Des fois, il a réfléchi un peu à l'avance, où il a des petites directions. Mais c'est surtout d'humeur, de ton. Une musique mélo, comme Angel, par exemple, où il avait vraiment des envies de grands mélos avec un grand orchestre, des chœurs, etc. Après, c'est à moi d'ajuster, de le guider aussi, de lui dire attention, là, peut-être qu'on fait fausse route, ou est-ce que peut-être là, est-ce que tu veux qu'on aille vraiment là, on y va? Oui, on y va. Bon, alors on y va. Et puis pardon, après, on échange, on discute. Mais non, il n'enferme pas dans des carcans, il met pas des musiques temporaires partout où on est obligé de suivre une... Non, non, il a la curiosité de savoir ce que je vais bien pouvoir lui trouver. Voilà.
Le piano est un instrument fétiche, on le retrouve ici. Il y a, on va dire, dans cette musique, un aspect très épuré au piano et en même temps le romanesque avec les cordes. C'était l'objectif de départ d'avoir quand même ça, cette double musique.
Oui, là, le but, c'était de ne pas avoir un thème au piano, le thème principal du film, comme parfois, vous savez, le piano, c'est l'instrument, on va dire, de base, l'instrument roi, parce qu'on va croire que je prêche pour ma paroisse, mais un petit peu quand même. Mais c'est un instrument qui est très, très intuitif, très instinctif, et qui sert à faire écouter ses premières idées le plus souvent. Surtout à François, qui adore les mélodies comme moi, donc il me demande souvent le thème. Alors, le thème, le plus facile, c'est de le faire écouter au piano, parce que c'est simple, il n'y a pas une grande orchestration autour. Donc, je lui fais toujours écouter simplement, et à côté, je lui donne la version où j'ai tout dans la tête, les cordes, les cordes, les harpes, et tout ça. Mais il sait qu'il peut se retrouver avec un petit morceau de piano simple, il peut écouter pour bien mémoriser le thème, la mélodie, etc. Et bien souvent, c'est ce qu'il aime beaucoup. Et bien souvent, et même si parfois il demande de changer, on se retrouve avec un moment donné dans le film le thème au piano, parce que je crois qu'il aime bien ça aussi. Mais comme on fait beaucoup de films ensemble, il ne faut pas se répéter trop non plus. Donc c'est pour ça que en France, vous aurez remarqué que il n'y a pas de thème au piano, vraiment proprement dit, avec une mélodie accompagnée. Les premières notes qu'on entend, ce sont des cordes. Bon, à part, je crois que la première musique du film, si je me souviens bien, c'est quand même le flashback au musée du Louvre. Donc là, on a un morceau un peu classique, avec un violoncelle, un violon, et le piano vient répondre à la fin. Mais ce n'est pas l'instrument de base. Et un orchestre à cordes en pizzicati derrière. Mais vraiment le thème du film, le thème de l'obsession de Pierre Ninet dans le film, c'est ces accords mineurs de cordes assez lents, assez diffus, toujours qui jouent sur le chromatisme, dans le grave, et qui ne sont pas définissables comme une vraie mélodie. Le thème vraiment viendra plus tard, c'est celui d'Anna.
C'est l'un des rares Ozon où il y a la grande histoire qui est convoquée, la guerre. Et dans ce film et dans la musique, il y a ce double aspect, à la fois le côté intimiste de la petite histoire, l'histoire d'amour, et cette grande histoire qui impose peut-être une gravité. Pour un compositeur, avoir en face de soi des images de guerre, est-ce que ça implique une pudeur, une délicatesse qui est obligatoire, on va dire ?
Ça dépend des films de guerre. J'ai envie de dire que dans Joyeux Noël, j'ai pas réagi musicalement de la même façon que dans celui-ci. C'est le film qui demandait une pudeur. Dans le jeu des acteurs, l'histoire qui est racontée, ses mensonges, ses faux-semblants, cette histoire d'amour contrarié, rien n'est déclamé jamais, rien n'est démonstratif. Même les images de guerre, vous avez vu, c'est fait avec finesse. On le voit dans la vitre du train, les ruines, mais c'est jamais. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses que je ressens. Vous savez, quand vous composez, tout est important, tout compte. Le ton, la façon de filmer, le rythme, le cadre, la photo, tout vous inspire. Donc, jamais j'aurais pu, dans un film comme ça, tout d'un coup sortir un grand thème de guerre, épique. Non, je ne l'aurais pas ressenti. De toute façon, naturellement, s'il me l'avait demandé, je n'aurais pas compris. Il ne l'aurait pas demandé d'ailleurs. Donc non, je pense que c'est le tout qui fait la signature d'une musique, le ton qu'on va donner, l'orchestration qu'on va donner, la couleur, c'est l'ensemble.
La musique de film, c'est bien souvent l'un des rôles de la musique de film est de convoquer l'invisible, de ne pas redonder avec l'image, mais plutôt de convoquer voilà ce qui ne se voit pas. Ici, c'est un film où il y a un lourd secret. C'est donc un film sur le mensonge. Est-ce que la musique était aussi là pour convoquer, sans révéler, peut-être ce mensonge?
La musique dans ce film, elle est surtout proche de l'intime des personnages. C'est-à-dire qu'elle nous accompagne dans les états mentaux des personnages, dans les tourments. Très vite, avec François, on appelait ça les tourments, les thèmes musicaux. Moi, je n'ai pas donné de nom très élaboré au morceau que je lui ai donné. On n'a pas le temps pour ça. Surtout que François s'amuse parfois à déplacer les musiques. Le montage étant pas encore achevé, bien souvent, je donne des choses et lui, les place. Parfois, un morceau qui devait aller là se retrouve aussi là, et ça, je ne suis pas au courant. Donc après, quand je le vois là, je me dis, tiens, c'est une bonne idée, j'étais pas encore allé là dans le film, moi. Lui, il a déjà anticipé, si tiens, ce passage-là, je vais l'essayer ici, et après, sur ce bis, moi, sur ce prime, je l'arrange pour qu'il aille bien là où il doit aller. Mais très vite, on a déterminé des titres. Deux grandes surtout chapitres, c'est le chapitre des morceaux des tourments d'Adrien, donc le moment où il rentre chez lui tout seul dans la rue, il arrive dans sa chambre d'hôtel, il regarde le miroir, on voit Franz apparaître, tous ces moments où ces tourments de mensonges commencent à le hanter. Donc là, on a ce thème en fa mineur avec ces cordes lentes. Insinueuses qui viennent un peu comme ça, comme une espèce de frisson qui l'accompagne tout le temps et qui le tourmente. Après, pour Anna, on a un autre thème qui lui est un petit peu plus thématique, plus mélodique, si j'ose dire, qui est plus méditatif, qui accompagne la douceur d'Anna. Bien sûr, c'est pas le même personnage, mais qui est aussi un terme de tourment. C'est un thème qui ondule comme ça, qui s'arrête, qui reprend, mais toujours dans la lenteur. Et ça accompagne son chagrin et à la fois son amour naissant et contrariant et contrarié et impossible et tout ce que vous voulez, et qui fait tout le charme de ce film. Et donc il y a à la fois aussi un petit côté plus sentimental dans ce thème-là que dans le thème d'Adrien.
Avec François Ozon, tu changes de registre à chaque film. Tu as fait de la comédie, des drames intimistes, films de guerre sentimentales, on peut dire. Donc la discussion, c'est repartir de zéro à chaque fois. Il n'y a pas, comment dire, de confort quand on aborde un film de François Ozon.
Ah non, 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 pas de confort. Si ce n'est le plaisir de construire une œuvre dans le temps. Voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. De temps en temps, j'essaye comme ça, subliminalement, de glisser un petit accord, un petit instrument, un petit motif qui pourrait appartenir à Sous le sable, qui revient dans France. Serait-ce que le demi-ton descendant, on le retrouve dans le thème de Sous le sable. Mais et parfois je le fais pas exprès, c'est-à-dire que c'est son cinéma, donc c'est impalpable, ça c'est une réaction presque physiologique. Je vois ces images, c'est son univers à lui. Ce n'est pas celui de Philippe Leguet avec qui j'ai travaillé, ce n'est pas celui de Christian Carion, ce n'est pas celui de Danny Boon, ni de Anne Fontaine. C'est son univers à lui. Et son univers à lui, eh bien, il me crée des sensations, il me procure des réactions qui font que parfois on va retrouver un petit motif de harpe. On dit, tiens, ça, alors c'est peut-être pas exactement le même, mais je pense qu'il y a une familiarité. Peut-être quelque part de temps en temps, voulu ou pas. Je peux, des fois ça m'amuse, et des fois c'est complètement le hasard. Et c'est après certaines personnes qui ont analysé qui me disent et ça serait pas la bâche de la piscine dans Swimming Pool, la note de harpe. Et ça, je dis oui peut-être, je ne sais pas.
Ah, c'est intéressant, ouais. Tu fais non seulement la musique du film, mais aussi la musique du cinéaste en ayant une conscience globale. C'est une démarche intéressante.
Et... Ça me plaît de le concevoir comme ça, même si, effectivement, d'un film à l'autre, il y a des films radicalement différents. Évidemment, Potiche et Angel, c'est quand même pas la même histoire, ni le même style. Mais on rentre là dans des films où on a un vrai exercice de style. On a un vrai jeu de cinéma, de référence. Mais malgré tout, dans petits endroits, si je peux faire un lien artistique entre, voilà, comme un collier de perles et essayer de mettre toutes ces perles dans le même fil, je m'y essaie.
On a deux extraits à vous montrer de films qui font partie de l'hommage à François Ozon ici. Premier extrait, Potiche. On vient de parler de cet exercice de style. Eh bien, voilà, découvrons l'ouverture de Potiche.
Grand écart.
Vous allez voir le grand écart que
fait changer l'ambiance
dont Philippe Rambi est capable. Potiche, François Ozon, musique de Philippe Rambi. Avec Catherine Deneuve en survêtement.
C'est la première image que j'ai vue du film, d'ailleurs.
Était là ce matin. Il m'a fait un clin d'œil. Je lui ai dit à demain, à demain.
Voilà, belle rentrée en matière dans Potiche. Et en voyant cette scène, on a vraiment l'impression que l'image, la musique est faite à l'image. Elle correspond vraiment à chaque apparition de la séquence.
Oui, oui, là, c'est vraiment une musique que j'ai pu faire. Autant le thème que vous entendez au début quand elle court, je l'ai fait avant. En souvenir de la salle de montage où François m'avait dit, voilà, viens voir, je vais te montrer quelque chose, est-ce que tu es libre demain? Oui, donc je me souviens, j'arrive le samedi dans sa salle de montage et il me dit, tiens, assieds-toi, regarde. Et puis je vois Catherine Deneuve qui court en vêtements. Il me dit, ah, c'est un film sur Yann Noir qui se passe dans les années 70, etc. Et puis il commence à me parler de... Il me dit, est-ce que ça tente? Est-ce que tu te sens? Est-ce que tu... Je dis, ah oui, on va bien s'amuser. Je vais tenter d'y arriver. Mais ça me donne envie. Et donc, je suis rentré chez moi, je fais ce thème. Voilà. Et je lui ai fait écouter. Il m'a dit, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est ça. Après, évidemment, une fois que j'ai pu avoir la séquence, j'ai ciselé toutes les synchronismes que vous pouvez voir, et surtout la deuxième partie où là on est, c'est une musique plus illustrative. Alors dans un film, on va dire entre guillemets habituel, on n'aurait pas poussé jusque là les non, ça aurait été ridicule. Alors que là, on est dans l'univers de Catherine Deneuve, elle est avec ses petits poèmes, elle est dans son film, ça y est, le parti, c'est Disney, et c'est ce que François voulait, et on s'est amusé. Voilà, ça c'était ça me, je souris quand je vois ça, je souris tout de suite. Il fallait que ça mette aussi le spectateur de bonne humeur, dans quelque chose de voilà. C'est champagne, c'est souriant, c'est frais.
Quand je disais que tu faisais la musique du film et la musique du réalisateur, je rajouterais un troisième item, tu fais aussi la musique de Philippe Rombi. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il s'agit un peu de pastiche, une musique de comédie, il y a quelque chose qui t'appartient. Je parlerai de tendresse dans les thèmes, par exemple. Est-ce que tu as le souci, quand tu fais une musique de film, que d'en être fier, que ça reste une musique qui pourrait être ton œuvre personnelle?
Ah là là, fier. Non, je pense pas très sincèrement. C'est dans le regard et dans les observations, comme tu viens de faire, que je me rends compte. Mes proches, les amis, les gens qui aiment bien ce que je fais, qui me disent, on te reconnaît, c'est toi, il y a cette sensibilité, on sait que c'est toi. Alors j'ai beau changer de style, de faire Astérix et puis Mensonge et Trahison et Les Hommes criminels, mais j'ai toujours des personnes, celles qui m'apprécient ou qui me connaissent peut-être, ou je ne sais pas, ou d'autres, me disent ah, c'est toi quand même, voilà. Mais ça, on s'auto-analyse pas. Moi, en tout cas, je me fais pas ma propre critique, analyse. Non, je fais le plus sincèrement, au film après film. Et peut-être que le faire aussi sincèrement fait que je ne peux pas m'empêcher de mettre du moi partout. Mais c'est plus à vous et à toi et de me dire ce genre de choses.
Mais par exemple, tu n'accepterais pas n'importe quoi non plus si le style qu'on te proposerait ne te conviendrait pas, comme musique techno par exemple, ou ce genre de choses.
J'accepterais si c'est une vraie démarche. C'est quelque chose qui m'intéresse ou que je n'ai pas abordé, qui m'intrigue et que je trouve judicieux comme idée pour le film. Ce que j'accepte pas parfois, c'est qu'on me mette sur une piste à laquelle je ne crois pas par rapport au film que j'ai vu. C'est arrivé, on montre un film et le réalisateur ou la réalisatrice me dit « je voudrais ce genre de choses ». Alors si vraiment je ne le ressens pas du tout, je me sens que je vais faire quelque chose qui n'est pas sincère, je le dis. Alors je lui dis, vous savez, ça ne va pas être sincère. Alors si la personne me dit, ça ne fait rien, essaye quand même. Bon, ça n'arrive jamais. Hein. En principe, les gens qui font du cinéma, ils ont suffisamment de sensibilité pour sentir que si vous êtes un peu réticent, ce n'est pas la peine. Donc ça peut arriver parfois. Ça peut arriver même en ayant commencé un peu à travailler, suivant la réaction, je me dis, je préviens tout de suite. Je dis, je sens qu'on va aller vers quelque chose de pas sincère. Donc c'est peut-être pas ce film-là qu'il faut. Retrouvons-nous sur un autre. Voilà, ça arrive parfois.
La sincérité, c'est vrai que c'est quelque chose qui te caractérise et qui fait que, par exemple, pour Bienvenue chez les Ch'tis, ça fonctionne pour Danny Boone. Ce n'est pas une comédie de tout venant, ça reste une comédie de haut niveau parce qu'il y a cette musique-là qui a cette sincérité par rapport au personnage. Et dans chez François Ozon, il y a beaucoup de perversité, de choses retors, de mensonges. Et en même temps, la musique, j'ai l'impression, reste dans toute son intégrité par rapport au cinéma de François Ozon, où la musique pourrait être beaucoup plus machiavélique, on va dire. Dans La Maison, par exemple, quels ont été les choix musicaux de Dans La Maison, qui est justement un film construit sur ce côté machiavélique de rentrer à l'improvise dans une maison.
Là, très tôt, François m'a parlé de cette musique, parce que là, vraiment, il voulait la voir avant. Donc, comme je vous le disais, challenge de ne pas se tromper, d'aller vers la bonne direction du premier coup, sans avoir vu le film. Et le problème, c'est que quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, il peut y avoir plusieurs directions. Et donc, on n'a jamais le temps de tout montrer avant. Soit parce qu'on est en train de faire un autre film, soit parce qu'on se dit, mais bon, sans les images, c'est quand même risqué de faire cette ambiance-là, celle-là, celle-là, celle-là. On risque aussi de perdre le réalisateur dans trop de directions. Il veut se dire, mais il ne sait pas ce qu'il veut me donner là. Je sens qu'il veut que je fasse le marché. Donc, dans La Maison, c'était délicat. Donc, je me souviens, j'avais fait une première. La première musique que j'avais fait pendant La Maison, elle correspond à la fin du film. Alors, est-ce que parce que j'ai lu le scénario, j'en fais une synthèse et que ces premières notes, c'était quelque chose de plus résumé de la psychologie du personnage qu'on retrouve à la fin quand il est seul, quand il prend le bus. Je me souviens, on a ce morceau, un thème entêtant. Et comme je ne pouvais pas tout lui donner, j'ai donné ça. Il m'avait dit, c'est intéressant. Je sens que ça va aller dans le film, mais ce n'est pas le thème principal, ça. C'est un thème secondaire. Est-ce que tu peux retourner au charbon, hein, grosso modo, et pour me trouver le mood principal, quelque chose de rythmé qui va... Parce que lui, c'est ça, le réalisateur, lui, son film, il l'a en tête depuis longtemps. Même si François fait un film par an, un an et demi, ses projets, souvent, il les a depuis longtemps, il y réfléchit, il ne peut pas les développer tout de suite, il va les développer 2 ans après ou 3 ans après. Mais il vit avec, il y pense, il travaille beaucoup. Et nous, quand on arrive, on n'a pas tout ce passif derrière, toute cette réflexion. Ce n'est pas si simple. Et dans ses propos, dans ce dont il m'a parlé, de rythme, de boucle, de quelque chose de répétitif, etc., j'ai senti qu'il voulait accompagner Dans La Maison par quelque chose qui est un peu tout le temps là, musicalement. Pas une musique tout d'un coup qui va arriver parce qu'il se passe quelque chose, mais une musique qui est là, qu'on entend, qui part, qui revient, qui est plus dans le mouvement, dans la création, et justement dans cette rédaction qui ne s'arrête jamais, puisque Fabrice Lucchini le sollicite jusqu'à ce qu'il trouve... matière à nourrir son imaginaire et ses fantasmes. Et donc, finalement, cet imaginaire ne s'arrête jamais de fonctionner et la musique, en parallèle, ne s'arrête jamais de recommencer, de se développer sur une trame répétitive.
À t'écouter, cela me fait penser que votre collaboration avec François Ozon sort du cadre du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, François Ozon te considère également comme un premier spectateur de son film et il se repose sur toi à l'affût en disant « voilà, qu'est-ce qu'il va penser de ma scène ?» Est-ce qu'il lui est arrivé justement, grâce à toi, de remonter sa séquence ou de revoir un peu son film, enfin, ou une scène ?
Je ne sais pas, il me le dira peut-être pas. Mais je pense que ce ping-pong dont j'ai parlé au début a agi plus d'une fois, oui, sur une interaction de montage, de rythme, de découpage de scène, ou peut-être de lier plusieurs scènes entre elles grâce à un morceau de musique. Où il se dit, tiens, ce morceau qu'il m'a composé, qui fait 1:30, sur ça, je vais pouvoir raconter ça, dans un même montage. C'est arrivé par exemple une fois, oui, il m'avait dit, c'est la première fois qu'il me disait ça pour Swimming Pool, il m'avait dit grâce à ton thème de fin j'ai changé la fin du film, c'est-à-dire le regard entre Charlotte à la fenêtre, Ludivine qui se répondent comme ça, tout ce final de film, le morceau je l'ai composé sur le scénario et il n'a pas bougé d'une mesure, d'une note. Donc en fait, ce morceau-là, il a dû l'écouter tellement, ça l'a nourri, ça l'a inspiré, et au moment du montage, il a construit son final dessus. Je pense que ça doit arriver parfois sur certaines séquences. Voilà, sans prétention, mais par son l'intelligence qu'il a aussi de me demander des choses avant, je pense qu'aussi ça le... Comme tu dis, je suis une sorte de spectateur neuf qui vient apporter des émotions vierges, fraîches, sur un film qui, lui, existe dans sa tête depuis beaucoup plus longtemps.
Alors, François Ozon est fidèle à certains de ses acteurs, il est fidèle à son compositeur et aussi à sa monteuse. Et on parle très peu des monteurs, mais ils sont très importants dans la collaboration musicale. Le fait que, justement, il y ait toujours la même monteuse, Laure Gardette, dans ses films, est-ce que ça, c'est un avantage pour le travail musical ?
Oui. Il y a eu... bon, moi, ça fait 15 ans, donc il y a eu d'autres monteuses avant, mais souvent par cycle. Mais là, Laure est là depuis un moment. Et c'est une bosseuse, une passionnée, elle a beaucoup de talent et elle apporte beaucoup d'intérêt à la musique dans son montage. La musique lui sert d'inspiration à elle aussi pour assembler les scènes, pour donner une... Parce que vous savez, on travaille beaucoup avec François, tout le monde, et il y a une vraie exigence. Et je pense qu'il aime travailler, enfin, qui se ressemble, s'assemble, comme on dit. Comme moi, je suis un fou, un perfectionniste. Enfin, avant que je lui donne quelque chose, il faut que j'y croie vraiment. Donc, j'ai beaucoup de corbeilles remplies avant de lui fournir quelque chose. Et Laure, c'est pareil. Je pense qu'elle travaille énormément. Et elle travaille avec moi aussi. On s'appelle, on s'envoie des choses. La nuit, le jour. Enfin, il n'y a pas de week-end, il n'y a rien. Quand on est dans une aventure, c'est... Voilà, on envoie quelque chose, on pense déjà au montage, est-ce qu'il a changé, est-ce que là il y a une image en moins, est-ce qu'on a coupé un peu, est-ce qu'il faut faire un raccord, on est dans le souci constant, on s'appelle, on se envoie des SMS. Et oui, le montage est capital, le montage est remis en question chaque semaine. On fait des projections toutes les semaines avec François, la monteuse, ses proches collaborateurs, on regarde où le film en est, on le jauge, on voit son équilibre, on voit si le message est passé, si l'émotion voulue à tel moment donné est passée. Si ce n'est pas le cas, alors à qui la faute ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est le montage ? Est-ce que la musique peut apporter quelque chose ? Voilà, on se voit, on en parle tous ensemble. Et c'est pour ça que j'aime avoir du temps aussi, parce que j'aime travailler comme ça.
Juste avant de revenir à France avec vos questions, deuxième extrait issu du film Une nouvelle amie qui met, on va dire, la thématique chère de François Ozon au climax, qui est la thématique du travestissement. Le travestissement qui est quelque part présent également dans France au début, où on ne sait pas qui est ce personnage. Ce personnage trouble de Pierre Ninet, en fait, quelque part, est un personnage travesti puisqu'il va s'inventer... un personnage qui est l'ami de Franz. Et donc, dans cette nouvelle amie, Romain Duris, c'est le travesti au sens premier. Musicalement, de faire une musique de travestissement, on va dire, est-ce que ça a un enjeu particulier ?
Oh non, j'ai jamais pensé. Non. Ça joue certainement son rôle dans l'inspiration. Ça doit... C'est pas simplement visuel avec François, le travestissement, le faux semblant, le miroir, il est tout le temps là. Donc moi, je le connais depuis mes débuts avec lui. Depuis la fausse présence de Bruno Kremer dans Sous le sable, à Swimming Pool, avec l'histoire qui se raconte, est-elle celle que Sarah Morton écrit ou pas ? Les fantasmes qu'on voit dans ses films, les rêves, les choses qui sont toujours en miroir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on se l'imagine? Donc dans la musique, je pense que involontairement ou volontairement, on retrouve des façons d'harmoniser le choix des accords, des timbres, qui certainement sont influencés par ce faux semblant.
C'est vrai que j'imagine que c'est compliqué de parler de ta musique puisque toi c'est intuitif. Oui. Tu analyses très peu, je dois le dire. Mais en tant que spectateur, c'est vrai qu'on se dit qu'il faut être un vrai équilibriste pour un compositeur de François Ozon, puisque justement, François Ozon joue comme ça sur les non-dits, les entre-deux. Et donc, il ne faut pas être à fond dans un endroit, il faut être comme ça, trouble aussi.
Oui, oui. C'est vrai que le thème de Swimming Pool module à chaque mesure.
Une nouvelle amie, on va découvrir cette musique. Le film fait partie également de l'hommage que Les Fauvettes lui rend à François Ozon. Magnifique, magnifique scène, l'art de l'ellipse, comment raconter tout un pan de leur vie en quelques minutes, et musicalement, comment dans ta musique, sans qu'elle varie, tu convoques la joie et la tristesse la plus profonde.
Là, c'est difficile parce qu'on est parti sur la deuxième partie du morceau, et donc pour ceux qui connaissent le film, tout va bien. Pour d'autres, c'est peut-être plus compliqué parce qu'on débarre avec un thème un peu fort, un peu très affirmé. Mais ce thème est le deuxième thème du film, c'est le thème principal. Il est évoqué dès le début de la séquence, en fait, qu'on n'a pas eu. Et petit à petit, au début, c'est un thème très innocent parce que ils sont petits, c'est l'enfance, et on les retrouve beaucoup plus tard. Et c'est là où on a pris. C'est quand on se retrouve dans la boîte de nuit où la musique est presque à un côté, presque avec le piano un peu scandé comme ça, un peu pop, qui veut marquer un petit flashback encore dans la musique, mais sans dire « Ah, ben, on est dans telle année, je vais faire ce style, on n'en était pas là ». Mais quand je lui avais proposé les thèmes, je lui avais proposé deux thèmes. Celui principal du film, qui est hors temps, qui n'est pas daté, et celui-là qui est un poil plus rétro dans sa mélodie et dans son arrangement, et qui sert ce moment de flashback d'adolescent à l'école, etc., c'est vrai que on revoit pas les choses après. Tu dis cette façon de varier les émotions en gardant le même thème. C'est ça que tu disais. Donc là, c'est pour les musiciens qui sont là. Par exemple, c'est les renversements d'accords, c'est le changement d'instrumentation, ou ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, mais c'est pareil, c'est un instrument d'orchestration, une question de haut, de bas, de creux au milieu, de savoir si sur le visage de Romain Duris, quand il rentre dans la chambre d'hôpital, ben le synchronisme, il n'est pas sur lui. C'est-à-dire que il rentre, on m'aurait pu le faire, mais non. En fait, la reprise du thème est avant, pas sur quelque chose de synchronisé à l'image, mais par contre, l'accord qui vous fait que vous êtes ému, il est sur son visage à lui. C'est pas le début de la phrase, c'est le renversement de l'accord. Donc il y a toute une manipulation. Vous êtes manipulé, en fait, c'est horrible. Non, mais c'est une manipulation, une belle manipulation. C'est ce qui fait le cinéma et la musique, l'émotion, qu'on écrive une œuvre sans image ou avec image. Là, on écrit une œuvre avec image, donc on fait un mariage de deux arts, de deux expressions, et chacun apporte quelque chose à l'autre. Et ce décalage d'image va se marier avec mon décalage de renversement d'accord, et puis on va essayer de créer une émotion avec ce mariage des deux. Mais je pense que pour répondre à ta question, voilà, l'instrumentation, le choix tout d'un coup du violoncelle qui est tout seul, le choix d'avoir une respiration sur les pas de Claire quand elle rentre dans l'hôpital, c'est voulu. Alors on entend ses pas, tout d'un coup on n'est pas obligé. On aurait pu reprendre une orchestration et la phrase dès le début. Non, il y a une espèce de bulle d'une mesure. Puis ça repart. Ben ça, c'est juste pour entendre ses pas tout d'un coup. Parce que c'est une musique aussi, ses pas. C'est quelque chose dans le son qui peut être intéressant. Voilà. Tout compte, en fait. Je pourrais en parler des heures.
On pourra en parler des heures, mais terminons en revenant peut-être sur Franz et vos questions. Maintenant, vous avez pu vous remettre de vos esprits sur ce film très émouvant et très fort. Alors, voilà, vos questions.
Les pauvres, on vous a fait voyager dans Potiche, dans une nouvelle avenue, puis maintenant, on dit, bon, alors France, c'était bien.
Il faut revenir à cette histoire. Mais vous pouvez avoir aussi des questions générales
surtout
le travail de Philippe. Vous avez devant vous le compositeur de François Ozon.
Non. Moi, je veux bien que vous parliez de l'air de violon de Franz.
Ah ah! L'air de violon de Franz, toute une aventure. L'air de violon de Franz, ça a commencé un an et demi avant. François m'a appelé pour me dire, bon, alors voilà, il faut que Franz... l'air de violon de Franz. En fait, vous voulez dire l'air que Pierre Niney joue au violon. Et qui est aussi l'air de France, puisque c'est très justement le morceau qu'il jouait à ses parents. Voilà. Donc ce morceau, évidemment, François m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ce soit un morceau existant. Qu'est-ce que tu peux en faire, etc. Donc je lui ai donné quelques idées d'air de violon qui pouvaient être des airs qui appartenaient à un violoniste, qu'un violoniste jouerait. Mais François, il ment pas mal Chopin. Il m'a aussi parlé de Chopin. Mais ça pourrait pas être ça aussi, Chopin. Voilà. Donc j'ai dit oui, bon, oui, bien sûr. Ça, c'est un arrangement de Chopin, pourquoi pas, un nocturne arrangé pour violon, etc. C'était déjà fait auparavant. Donc on a essayé différentes choses. Je lui ai fait écouter, je lui ai envoyé des extraits. Lui aussi, il m'a demandé mon avis. Et puis finalement, il a tranché sur ce morceau qu'il aimait beaucoup. Voilà, ce nocturne de Chopin qu'il aimait beaucoup. Et donc, nous avons dû préparer ça pour le tournage, puisqu'il le joue et qu'on le voit le jouer. Donc ça fait partie aussi parfois, parfois du travail du compositeur, quand le compositeur a, on va dire, les compétences classiques de formation pour s'occuper des arrangements, de diriger l'orchestre, comme je le fais, comme dans Joyeux Noël avec Nathalie de César. François sait que je sais faire tout ça, que c'est mon domaine. Donc, il me pose toujours des questions sur le choix des morceaux classiques, etc. Donc là, ben, pour ce morceau, j'ai mis au point une espèce de maquette pour lui donner une idée déjà de ce que ça pouvait faire de s'arrêter, d'avoir le malaise, le morceau s'arrêtant, à quel endroit, à cet endroit-là, à celui-là. On a fait des essais pour voir si musicalement c'est, ça tenait debout. Si, surtout dramatiquement, ça tenait debout, c'est le plus important. Voilà. Et puis, après, mon épouse étant violoniste et ayant appris le violon à Pierre Ninet, François lui a demandé de jouer elle-même, donc c'est elle qui joue dans le film, tout ce qui est de partie violon. Et donc, nous avons enregistré à l'avance le violon et le piano qui se trompent, tout comme dans le film, mais en playback, pour préparer Pierre Ninet à son apprentissage et aussi pour faire le doublage du film, donc pour diffuser sur le plateau ces enregistrements-là, habituer Pierre à entendre ce rythme-là pour pouvoir par mimétisme travailler sur une bande démo, et à la fin reprendre parfois cet air, mais comme de la musique de film, comme par exemple à la fin où c'est le violon solo sans rien qui finit sur le tableau au Louvre. Donc on fait un petit rappel comme ça, subliminal d'un morceau qu'on a vu jouer mais qui là est désincarné physiquement. Voilà pour la petite histoire du Chopin.
Et François Ozon aime beaucoup faire jouer ou chanter de la musique à ses comédiens. Dans tous ses films, il y a à un moment donné un acteur qui joue une musique ou qui chante une musique. Dans Potiche, Catherine Deneuve chante un air qu'elle entend. Et là, donc, c'est le violon. Est-ce que toi, tu participes au coaching des acteurs quand il s'agit de d'interpréter une musique ?
Non. Là, bon, comme c'était du violon, ben, j'ai laissé la main à qui de droit. Si, Paula, je lui ai montré quelques mouvements de main pour le piano. Quand elle joue le morceau que j'ai arrangé à la fin, qui est La nuit d'étoiles de Debussy, j'ai fait un arrangement avec violon. Puisque c'est pour chant et piano. Elle devait jouer dans le film quelques passages au piano, voilà, donc je lui avais un petit peu montré quelques gestes, mais comme elle jouait du piano, déjà, ça n'a pas été vrai, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Voilà, je suis allé à l'Opéra de Paris, passer la nuit de tournage aussi, pour donner quelques petits conseils, voilà, mais tout ça pas de manière très formelle, de manière amicale, pour François, pour l'aider, pour qu'il ait son petit regard de musicien près de lui, pour voir si tout allait comme il voulait et tout était crédible. Voilà, il y a eu un coach pour le chant, pour la comédienne à la fin qui est censée chanter. Donc ça, c'était pas mon domaine.
D'autres questions ?
Bonsoir.
Comme Alexandre Desplat et beaucoup d'autres compositeurs de musique de film dans les décennies précédentes, vous seriez tenté éventuellement par une carrière américaine, ou alors là, pas du tout. Et autre question aussi qui est très liée, est-ce que les moyens accordés à la musique de film en France au niveau de la production sont plutôt en hausse, plutôt à la baisse, ou c'est stagnant ? Voilà, un peu les deux questions qui se recoupent.
Vaste sujet.
Oui, c'est pour ça.
Alors carrière américaine, la fois où ça s'est proposé, deux fois d'ailleurs, eh ben, j'avais de jolis projets en France et ben, je leur ai dit ben, pardon, je suis flatté, honoré, etc. Mais je n'ai pas voulu délaisser ou dire à François par exemple, écoute, sur ce film, ben, j'aurai qu'un mois de présence, hein, il faudra te faire à l'idée, ça vous sera 15 jours parce que je vais faire... Voilà, non, j'ai... Quand j'ai commencé ce métier et quand j'étais encore étudiant au conservatoire, je rêvais en fait de pouvoir, à mon humble niveau, donner au cinéma français des musiques intimistes, mais aussi des musiques orchestrales, refaire aimer l'orchestre symphonique, etc., pour ici, chez nous, faire de belles musiques, essayer de continuer cet héritage. Voilà. Alors évidemment, dès qu'on a deux, trois moyens, si on s'en va... Alors je me souviens, dès que j'ai commencé à l'Hirondelle déjà, j'ai des gens du cinéma qui m'ont dit « Oh, toi, tu vas partir à Hollywood. » Après, Joyeux Noël, c'était comme ça. À Londres, ils m'ont dit « Oh, toi, tu vas te barrer. » Je ne sais plus quel film aussi. « Oh, tu vas rester, hein, tu vas rester. » Bon, alors c'est amusant. Alors évidemment, voilà, si l'occasion se présente, que le projet est beau, mais si c'est pour juste faire un film parce qu'il est américain, non, voilà. C'est ça pour de belles raisons et l'avenir nous le dira. Après, pour la deuxième question, les moyens, c'est difficile. Oui, c'est vrai, c'est de plus en plus difficile, justement avec ces rêves d'orchestre dont je viens de vous parler, eh bien, ça, qui dit orchestre dit studio, dit musicien, dit voilà, ça se fait pas. Aussi bien le compositeur peut faire un effort parce que c'est sa passion, pourquoi pas. Un réalisateur peut ne pas se faire payer sur un film. Il a un projet en tête, c'est sa passion. Il dit, là, je serai payé sur le prochain. Mais quand vous réunissez un orchestre symphonique, un studio, eux, ils n'y sont pour rien, les pauvres. On ne va pas leur dire, là, cette fois-ci, vous aurez le tiers. Hein, vous êtes gentils, hein, mais bon, vous ne pouvez pas faire mieux. Donc, même si des efforts sont faits de tout le monde depuis quelques années, y a un minimum qu'il faut. Alors évidemment, j'ai la chance d'avoir fait quelques films, d'avoir fait quelques musiques. Alors on me fait confiance. Quand je dis il faut tel nombre de musiciens sur un projet, on sait que c'est pas pour tout d'un coup réaliser un fantasme personnel. J'ai eu 97 musiciens pour Joyeux Noël avec des chœurs. J'ai eu pour Angèle pareil. J'ai eu des choses énormes. Donc j'ai pas un fantasme caché de mégalomanie de diriger un grand orchestre. J'ai dirigé le London Symphony Orchestra, je l'ai fait, ça y est, c'est fait. Donc les gens le savent, donc ils savent que si je leur dis il faut 40 cornes, c'est pas pour faire beau. Voilà. Donc s'ils comprennent pas, après je leur explique. Donc je prends mon téléphone, j'appelle le producteur directement, pas d'intermédiaire, et j'explique pourquoi, pour l'intérêt du film, il me faut ça. Soit ça marche, soit c'est plus compliqué. Des fois, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas parler directement. Ce sont des grosses machines. Et parfois, c'est arrivé sur Astérix, par exemple. Astérix, vous savez, c'est toujours pareil. Si on vous demande un quatuor, une musique pour quatuor, si vous faites du symphonique, mais si on vous demande de faire John Williams et qu'on vous dit vous avez les moyens pour un quatuor, les enfants, là, il faut vous mettre d'accord. Moi, je vous fais, si vous voulez, Hollywood, mais... Faut minimum. Donc déjà, on y est arrivé pas mal si je vous dis la différence de moyens qu'on a eu sur des films comme Angel, Joyeux Noël ou Astérix par rapport à la même production qui serait américaine, vous ne croirez pas. Voilà. Mais à notre niveau, à nous, on a eu les moyens d'avoir un grand orchestre, etc.
Et Philippe, parce que là, la question était large.
Elle est vaste. C'est difficile de le faire court, parce que c'est un vaste sujet et délicat.
Et c'est vrai que, mais Philippe reste, et c'est une chance que tu as, du coup, dans une grande qualité musicale et de bonnes conditions, on va dire, puisque, de manière générale, il se peut que tu parlais de la pédagogie vis-à-vis des producteurs, tu l'appelles sans intermédiaire. Les intermédiaires sont de plus en plus fréquents, il y a des superviseurs qui font le lien, on va dire. Et par exemple, tu disais que tu refusais un film américain parce que tu voulais pleinement t'engager sur un projet. Et de plus en plus de compositeurs peuvent avoir plusieurs projets puisqu'ils ont une équipe, ils font orchestrer également. Toi, tu es pointilleux sur le fait également de tout faire toi-même, entre guillemets. C'est...
Oui, enfin, jusqu'à un certain point. Évidemment, des fois, on doit être aidé sur parce que le cinéma est comme ça, parce que le monde est comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que plus ça va et plus le temps est restreint. On vous demande de faire la même chose en quatre fois moins de temps. Mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'après, quand ça devient du business, vous n'êtes plus aidé par une personne, vous êtes aidé par 5, 6, 7 personnes. Et c'est pareil pour le son, c'est pareil pour le studio, c'est pareil pour les programmations. Outsider avec Baratier, j'ai fait toutes les programmations chez moi, j'ai voulu chercher les sons électroniques, j'ai voulu les trouver moi, j'ai voulu savoir ce que j'allais mettre dedans. Et on est arrivé avec 200 pistes à Davou. Et ils ont fait péter la console, mais je savais ce qu'il y avait dans chaque piste. Voilà. Après, peut-être que je ferai d'autres films où j'aurai plein de programmeurs qui vont me faire. Mais maintenant, je connais, donc ça va. Ils pourront me faire ça pour m'aider. Mais après, ça peut devenir très vite. Évidemment, avec le succès, on vous demande, vous êtes heureux, vous êtes sollicité, vous pouvez. C'est pas condamnable. C'est normal. C'est la vie. C'est l'homme est comme ça. Et on est tellement heureux d'accepter les projets. Mais après, très vite, on peut rentrer dans un système où on perd un peu son âme. Des fois, ça m'arrive. Alors je stoppe tout. Je m'assois tout seul dans mon studio et puis j'essaye de repenser quand j'étais ado et qu'est-ce que je rêvais de faire. Et comment je rêvais de le faire. Et je revois mes partitions au crayon, etc. Ça me rassure, je les relis. Je dis, ça va. Ne perds pas trop de vue ce que tu faisais avant. Mais ce n'est pas facile, parce que c'est le métier, parce que c'est... Vous pouvez rater plein d'occasions aussi de projets parce que vous n'êtes pas dans une grande équipe, etc. Parce que c'est une mode aussi. Voilà. On veut faire comme les Américains, mais avec 10 fois moins de moyens.
En 2016, L'Outsider, France. En 2017, quels seront les projets, si on peut déjà en dévoiler ?
Eh bien, écoutez, je suis en train de réfléchir sur le prochain film de notre ami François. Voilà. Et je peux vous dire que ça va être... tu parlais de tout à l'heure de choses qui sont bizarrement pas trop accidentées ou pas trop perverses. Et là, je pense qu'il y aura quand même quelques petites surprises.
Voilà. Eh bien, tu sais donner envie. Merci à vous d'être venus. Bonne fin de cycle, François Ozon aux Fauvettes. Merci Jean-Pierre, le programmateur, et à bientôt. Merci Philippe.
À bientôt. Au revoir. Au revoir.